Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leurs jeux. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasi mensuel de La Cellule. Aujourd'hui avec Julien Button. Julien, ça la pêche?
Ça va.
On rappelle que Julien est artiste peintre, qu'il est rôliste. Il participe notamment à l'association de jeux de rôle de Saint-Malo. On peut te retrouver sur des parties de jeux de rôle incroyables comme Pathfinder. Tu nous l'as déclaré. Et quoi d'autre d'ailleurs? Tu joues à quoi d'autre, Julien?
Alors moi, je joue beaucoup à Vampire.
Ah,
depuis 2 ans.
On va en parler, on va en parler. Nous sommes également avec Pierre Rosier, ça va la pêche?
Coucou, ça va.
Ouais, ça va. Donc toi, pareil, MJ sur Paris en ce moment, étudiant.
Et oui.
Dans un sujet très intéressant d'ailleurs, tu veux qu'on en parle de ton sujet? Du coréen, du chinois, des études chinoises et compagnie, c'est hyper passionnant. Et tu m'as ramené un super livre là-dessus.
Ouais.
Super cool.
À la philosophie, à la pensée chinoise.
Héroliste, expert notamment de mes propres créations. Hein. Tu joues beaucoup à Sens, à Trip to Sky, etc. Et puis tu nous as ramené récemment des jeux un peu plus tradis, c'était vraiment sympa.
Et en ce moment, à Vampire en campagne.
Et en ce moment, tu fais
la V5. Vampire.
Ah, d'accord. Tout est match, tout est propice. Les astres sont propices. Nous sommes également avec Yann, un petit nouveau. Ça va la pêche, Yann? Prends le micro.
Oui, ça va.
Alors toi, tu es joueur de Vampire The Eternal Struggle, mais pas uniquement. Joueur de Magic aussi.
Magic, jeux de société à l'occasion, un petit peu de jeu de rôle de temps en temps. En fait, l'idée, c'est surtout de passer un bon moment avec les amis et de boire un coup.
T'es sur quelle région, toi, en fait?
Je suis entre Rennes et Saint-Malo, à mi-chemin dans la campagne entre les deux.
Okay. Tu participes à des assos à Rennes ou tu... Non.
Pas du tout, c'est vraiment entre amis. Voilà.
Ok. Et tu es venu avec Clément. Clément, salut, ça va la pêche?
Salut.
Alors toi, comment te présenter? Alors tu participes à des chaînes YouTube d'Actual Play sur Vampire. Tu
c'est
fais
ça.
Des tournois de The Eternal Struggle, qui est le jeu qu'on va tester.
J'en ai fait, ouais, sur Prime.
Raconte-moi tout ça. Alors raconte-moi ta vie un petit peu. Qui es-tu, Clément?
Donc Clément, vous pouvez me connaître sur avec le pseudo Manche Caillou sur le Discord de la chaîne YouTube Blood Roll.
D'accord. Où... Comment de bout de rôle tu dis?
Blood Roll.
Blood Roll. Ah
Blood
d'accord,
Roll.
Ok.
C'est une chaîne consacrée au jeu de rôle dans le monde des ténèbres, dans le WoD.
Donc, ouais, ok. Le WoD. Ah, pourquoi? Ça veut dire quoi?
World of Darkness.
Ah, d'accord. Ça, c'est important, tu vois, tous les petits trucs et tout, de bien préciser aux auditeurs, parce que tout le monde n'est pas expert comme toi.
Pardon.
Ok, très bien.
Donc, c'est une chaîne qui a commencé en 2019. Il y a déjà 2 saisons de Vampire qui sont éditées. Il y a une saison de Loup-Garou, en JDR, où je suis joueur.
Ouais.
Il y a aussi une mini-saison de Démon, The Fallen. Mmh. Et il va y avoir très probablement d'autres licences du WoD qui vont arriver dans quelques temps.
Et toi Clément, t'es sur quelle région?
Alors moi je suis à Côte d'Armor, à Dinan. Je suis artisan cuir dans la ville.
Mmh. Dans la rue du Gersval.
Dans la rue du Gersval, c'est ça.
Voilà,
la fameuse rue qui descend.
Ah, ou qui monte.
Ou qui monte, ça dépend. Enfin, c'est plus qui descend.
Ouais, d'accord, ok.
Et
excellent.
Sinon, je fais du jeu de rôle depuis à peu près 20 ans. J'ai commencé par une campagne Hunter. Mmh. C'est ma première campagne. C'était dans le World of Darkness, ou sinon le monde des ténèbres.
Ah, t'es un grand amoureux du monde des ténèbres, toi.
J'ai eu une grosse pause aussi. J'ai joué à d'autres univers, mais je me suis... Enfin, le WoD a toujours... Enfin, le monde des ténèbres a toujours une marque assez importante pour moi.
Mmh, excellent. Et c'est toi donc qui es venu nous présenter un jeu en compagnie de Julien aussi, qui connaît bien ce jeu. Donc, vous êtes venu nous présenter Vampire The Eternal Struggle, qui est un jeu de cartes. Est-ce que Julien, Yann, Clément, vous voulez nous représenter juste un petit peu rapidement de quoi il s'agit, de quand date le jeu, qui est l'éditeur du jeu? Je ne sais rien sur ce jeu. Comment il est distribué, par exemple? Moi, je n'ai pas vu ça chez Jouet Club, je n'ai pas vu ça en boutique. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire un peu
que
rapidement?
C'est compliqué.
Alors, raconte un petit peu.
Alors, c'est un jeu de Richard Garfield, donc le créateur
de
quoi Magic.
C'est un jeu de Richard Garfield?
Eh oui.
Ah mais non, mais j'étais pas du tout au courant, je croyais que c'était un jeu qui était
c'est
édité
le
par...
C'est le deuxième gros jeu de Richard Garfield, c'est sorti un an après Magic, et c'est... Alors à la base ça s'appelait Vampire Jihad, et c'était édité par Wizard of the Coast.
Ah bon ?
En 94.
Mais alors attends, voilà. Je comprends pas. C'était publié par Wizards of the Coast, mais alors pourquoi ils n'ont pas eu le droit d'utiliser les symboles d'engagement et de dégagement des cartes ? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de
pencher ? Attends, parce que c'est pas fini. À la base, c'est Wizard. Alors en 95, ça change de nom déjà, parce que Jihad, ça passe pas très bien.
Ah non, ouais.
Donc ça devient Vampires et Eternal Struggle. Et en fait, Wizard s'en occupe que jusqu'à 2000. Après, c'est White Wolf de 2000 à 2010.
Qui reprend la licence.
C'est ça. Et eux, ils vont être assez actifs. Ils sortent 18 éditions. Et après, ils laissent tomber le jeu.
Il laisse le jeu pour
le jeu est mort. C'est pas vraiment vrai parce qu'il y a une communauté de joueurs en fait qui continue à faire vivre le jeu, mais il n'y a plus d'éditeur. En fait. Il n'y a plus d'édition officielle. Les joueurs vont faire des éditions PDF. Et en 2018, c'est Black Chantry qui rechoppe les droits et qui reprennent le.
Et Black Chantry, c'est quoi ? C'est un éditeur américain de jeux de
cartes ? Alors, Black Chantry, c'est 5 joueurs passionnés de 5 pays différents. Et qui font partie de ce collectif de joueurs qui a fait vivre le jeu. Et c'est eux qui reprennent le truc, en fait.
D'accord.
Et c'est aujourd'hui, c'est eux qui éditent. Les distributeurs, il y en a très peu. Mais tu peux acheter directement chez Black Chantry. Ils font même du print on demand, où tu peux acheter tes cartes et tu peux acheter toute leur production directement.
Ils les imprime directement on demand à Hong aussi. Kong, en Chine
Je sais pas, c'est sur Drive, je sais plus comment ça s'appelle.
Drive-Thru.
Ouais, c'est RPG. Ça.
Ouais.
Voilà. Alors, où est-ce qu'ils impriment ça ? Parce que des cartes comme ça, de cette qualité-là, ils doivent avoir un quartier, je sais pas. Je sais pas comment ils font, en fait. Je serais curieux de savoir. Bon,
ouais.
Mais ok, distribution plutôt chaotique. Alors, et aujourd'hui, du print on demand pour un jeu.
Pour répondre à ta question, pourquoi ça n'a pas marché, moi, j'ai toujours entendu dire, et moi, à l'époque, c'est pour ça que je m'y suis pas intéressé au jeu. Mais le jeu a toujours été en anglais jusqu'à très récemment.
En fait. Ah,
et c'est Black Chantry... qui a fait une version espagnole et une version française en 2019. Jusqu'à 2019, c'est que en anglais.
Et donc ça touchait forcément qu'une niche de joueurs dans les capitales européennes.
Ouais, c'était du joueur un peu élitiste. Après, il est vrai que la communauté, par contre, de joueurs a toujours tient ce jeu à cœur.
Ouais. Ah oui.
Y a des discords qui existent toujours où ils ont toujours organisé des tournois, des compétitions. Ouais. Donc même quand le jeu avait été arrêté d'être édité, il y avait toujours des tournois en fait qui existaient. La communauté est extrêmement soudée et donc du coup il y a de plus en plus de personnes, enfin plus en plus. C'est pas non plus des milliers des cents, mais il y a...
Mais combien, justement, tu saurais évaluer à peu près ? Tu dirais un millier de joueurs dans le monde, 2000, 3000
Non, beaucoup plus.
D'accord, justement, je sais pas, j'ai du mal à...
L'estimation, ce serait vraiment de la pure estimation au pifomètre, je peux pas
te
dire.
Tu sais pas, ok, ouais, non, ok. Ouais. Mais beaucoup plus de... Tu vois, enfin, je sais pas, beaucoup plus de 10 000, on va dire.
Non, ça se compte en millions, je pense. Oh, ça se compte en millions. Il y a une énorme communauté en Espagne, un peu dans toute l'Europe et beaucoup en Amérique latine aussi.
Après, il faudrait savoir combien de joueurs jouent à Vampire, la Mascarade, le Vampire Darkness, etc. Enfin, tu vois, et combien de gens connaissent l'univers de White Wolf, tu vois ? C'est énorme.
C'est la deuxième licence la plus connue.
Est-ce qu'il y a plus de gens qui jouent au jeu de rôle qu'au jeu de cartes ? Tu vois, c'est des petites questions.
Oui, certainement.
Parce que moi, j'ai connu des gens qui faisaient pas forcément du jeu de rôle vampire et qui faisaient du jeu de cartes. La première fois que j'ai entendu parler de The Eternal Struggle, c'était par Raon, qui était à l'époque... je crois qu'il avait déjà quitté Gameblog pour Ubisoft. Et on avait fait un podcast ensemble et juste après, il allait se faire une partie. Et Raon, à ma connaissance, il jouait pas au jeu de rôle. Il faisait vraiment, par contre, beaucoup de. Il avait une petite communauté de joueurs de Eternal Struggle. Donc ça veut dire que le jeu est sans doute joué aussi par une communauté peut-être non rôliste, qui a déjà joué au jeu de rôle vampire, mais qui n'y joue pas régulièrement. Etc. Donc il doit être plus joué que. Attends, on sait pas. Voilà, on est à la louche, on parle un peu nos expériences personnelles. Ouais, ok. En tout cas, voilà, un jeu avec une communauté active sur le net, ça c'est indéniable. Très bien. Et donc, cette histoire de diffusion des cartes en print on demand, quelques petits distributeurs, des magasins spécialisés, j'imagine, qui vendent du jeu de rôle.
Oui.
Aussi. Voilà.
Oui, on a quelques-unes en France, quand même.
Il y en a, tu saurais à peu près dire les...
Non, mais par contre, sur le site de Black Chantry, on peut voir tous leurs distributeurs.
Okay. Tu renvoies au site internet.
Pour Paris, moi, j'ai vu Troll de Jeux. Ils en vendent. Ouais. Et il y a l'œuf cube aussi, je crois. À une période, je me fournissais à l'œuf cube, moi, quand j'étais sur Paris.
Le spécialiste du jeu de cartes à jouer et à collectionner, clairement.
Après, probablement aussi le temple du jeu à Rennes, les grosses boutiques de... qui vendent du jeu de rôle et du jeu de cartes.
Je crois que j'en ai vu sur leur site, temple du jeu à Rennes.
D'accord, ok. Excellent, excellent. Ok. Alors, les mécaniques du jeu, pour les résumer simplement, je vais m'y coller, parce que si je vous pose la question, le problème, c'est que vous allez partir peut-être dans les détails. Mais vous me complétez ou vous ajoutez des choses. Yann, Clément, si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas. L'idée, c'est qu'on a deux paquets de cartes. Un paquet de cartes d'action qui vont permettre de faire des choses sur le jeu. Et un autre paquet de cartes qu'on appelle la crypte, qui est constitué de personnalités de vampires, de différents types de personnages. Donc c'est un peu comme si on avait une douzaine de cartes, je crois, de personnages, en fait, et qu'on pouvait choisir le personnage, qu'on tirait au début de la partie les personnages qui vont aller sur le champ de bataille. Et en fait, on va investir. Vas-y, je t'en prie, vas-y, Clément.
Juste comme ça, ce sont des personnages aussi qui existent dans le monde des ténèbres, par exemple. Vous pouvez très bien jouer Théobel, Hardestadt, Lucita, Jean-Peter Zoon.
Les personnages emblématiques de l'univers du monde des ténèbres sont tous représentés. Voilà.
Et évidemment, ils ont créé aussi des personnages simplement pour pour le jeu.
Le jeu, ouais. Et alors, ce qu'il faut voir, c'est que chacun de ces personnages a des disciplines. Comme dans... Donc c'est vraiment des personnages de vampires, ils ont des disciplines. Les disciplines, c'est les mêmes que dans le jeu de rôle. Donc on a Augure, on a Valéren, ça c'est peut-être Temporis, je ne sais pas.
Il y a toutes les... bien sûr. Toutes les disciplines qui existent, elles sont jouables.
Donc là, je cite volontairement des disciplines un peu de niche. Mais voilà, il y a évidemment, il y a tout ce qui est présence, etc., etc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont également leur clan. Donc Toréador, Ventru, je les présente pas toutes.
Il y a même les lignées, en fait, il y en a 39 en tout.
Ah oui, 39 lignées.
Alors, parce que tu as les anti-tribus aussi et tu as toutes les lignées un peu spécifiques.
Il y a toutes les lignées et il y a même aussi les abominations qui sont jouables.
Ouais. Et tu as même une édition, c'est les chasseurs de vampires. Tu joues des humains. Alors, c'est des mécaniques c'est des mécaniques qui marchent à peu près pareil, mais qui sont un petit peu différentes.
D'accord.
Excellent. Et tu joues pas de vampire du tout.
C'est excellent. Et nous, en fait, on incarne un Mathusalem. Et alors, qu'est-ce que c'est les Mathusalem dans Vampire? Pour les gens qui débarqueraient vraiment dans l'univers de White Wolf, ce sont les grands vampires qui sont enterrés quelque part dans le monde, cachés dans des cryptes spéciales, entièrement protégés et barricadés par souvent des vampires de leur propre clan. Souvent. Et c'est pas toujours le cas. Il y a plein de secrets dans Vampire, donc voilà. Mais en tout cas, voilà, on dit qu'ils sommeillent dans les profondeurs de la Terre et qu'ils se livrent à une grande guerre, en fait, à travers leur descendance, à travers leur sang, à travers les jeunes vampires, ils se livrent à une grande bataille entre eux. Et c'est cette bataille, justement, qu'on appelle le djihad, en fait. Alors, je comprends qu'aujourd'hui, le terme pose question. Par rapport au fait d'actualité, évidemment aux problématiques de terrorisme aux États-Unis comme en Europe, mais il faut savoir qu'à l'époque où ce jeu sort, il y a plein de fictions, je pense aussi à Dune qui utilise ce terme, le djihad, en fait, c'est un mot un peu exotique pour parler d'une grande guerre idéologique entre différents types de
personnes. À l'époque, il y avait même une carte de Magic à l'Assemblée qui s'appelait djihad.
Qui a été bannie depuis.
Interdite pour raison de...
racisme, je crois.
Voilà, quelque chose comme ça.
Ouais. La croisade aussi a été interdite. Il y a pas mal de cartes comme ça qui ont été interdites pour les problématiques américaines d'intégration et des communautés, etc., et d'inclusivité, et puis de problématiques de racisme et compagnie. Et donc, du coup, toujours est-il que ce djihad, donc cette guerre que se livrent entre eux ces grands vampires, eh bien, c'est l'objet de ce jeu de cartes auquel on va jouer. Chaque joueur incarne non pas un magicien comme dans Magic, non pas une étoile comme dans Leval, mais un personnage, un Mathusalem, qui influence, en fait, et d'ailleurs, il y a même une phase de jeu qui s'appelle comme ça, qui influence les personnages qu'il va pouvoir intégrer. Et en fait, après, les cartes de l'autre paquet, donc des cartes qui ne sont pas des personnages, ce sont des cartes d'action qui vont être entreprises par ces personnages. Et à chaque fois qu'un personnage accomplit une action, on l'engage. Donc ce qui fait que d'abord, il faut invoquer ces personnages en utilisant sa ressource, qui est son influence, qui sert aussi de point de vie, ses points de sang, et ensuite on joue avec ces personnages. Alors, pour les gens qui connaissent un petit peu les créations dont on parle à la cellule, comme le Val et tout, bah, ça ressemble beaucoup au Val, en fait, où on a les étoiles, ce seraient les Mathusalem, les personnages, bah, ce sont les vampires qui émergent de la crypte, et les cartes, bah, ce seraient les actions et les différentes ressources qu'on met autour. Alors, moi, je ne savais pas du tout, moi, je n'avais jamais joué à Vampires qui étaient notre gueule, mais il se trouve que, par hasard, en fait, il y a des... Et même, on retrouve dans le Val ce qu'on appelle une phase d'influence. Donc, ça, voilà. C'est un jeu que les auditeurs de la cellule connaissent bien. Donc, ça permet d'avoir une référence. Mais dans Magic, ce serait pareil. Alors, ce qui est compliqué dans Magic, c'est qu'on a le sorcier, puis directement les créatures qui s'attaquent, qui défendent. Là, on a une espèce de stade intermédiaire où les créatures sont elles-mêmes des petits sorciers qui ont des petits sorts, qui font des effets, etc. dans Eternal Struggle. Et ce qui est original dans ce jeu, c'est qu'il y a toute une dimension politique qui est amenée par le fameux système de la proie. Tu disais, Clément, raconte-moi ça.
Alors, le système proie-prédateur.
Comment ça fonctionne ?
Imaginons, on joue à trois joueurs. Le joueur de droite sera le prédateur. Il ne pourra concentrer nos attaques de paire de points de vie globalement que sur nous. Le défenseur donc, qui sera sa proie, lui ne pourra jamais attaquer les points de vie de son prédateur, mais pourra en fait l'influencer.
Voilà. Et donc la proie est à gauche. Donc, notez,
la proie est à gauche.
À droite, on trouve les prédateurs.
Voilà.
À gauche, ce sont les proies. Voilà, c'est un peu comme dans la politique.
Et dans... Bravo. On avait dit pas de politique.
Ah, mais il va y en avoir dans ce
il y en a beaucoup.
Donc l'idée, mais ce qui était intéressant aussi dans cette affaire, c'est que tu me disais, Clément, que c'était probablement le jeu qui avait lancé un peu ce concept-là de on est attaqué par un joueur et on se défend d'un joueur et on attaque un autre.
C'est pas sûr à 100%. Mais de ce que je me rappelle en tant que joueur, pour avoir testé quelques jeux de cartes, pour moi, c'est le premier jeu de cartes que j'ai vu en format proie-prédateur. Il faut savoir que, par exemple, si vous êtes à 4 ou 5, évidemment, vous avez des joueurs qu'on appelle neutres qui n'ont pas du tout d'influence directe, en fait, qui ne peuvent pas faire d'action directe sur nous.
Et ça, c'est hyper intéressant. Ils ne peuvent pas avoir d'action directe, mais on peut se parler entre nous. En fait, il y a quelque chose qui émerge dans Vampires The Eternal Struggle, je trouve, c'est ça, c'est la dimension. C'est un jeu, en fait, qu'on dirait diplomatique. Il y a des gens qui jouent à Magic en mode diplomatie. Ça existe beaucoup. Il y a même une extension de Magic qui s'appelle Conspiracy, dont c'est carrément le propos, quasiment. Donc voilà, c'est une pratique qui se fait beaucoup. Bon, c'est pas ma pratique préférée de Magic. C'est une pratique qui a tendance à me rendre extrêmement mauvais joueur. Mais là, il faut le dire, dans Vampires The Eternal Struggle, on voit que c'est fait pour. Et donc, il y a des mécaniques pour compenser Parce qu'en fait, pourquoi ? Les jeux de diplomatie, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que souvent, c'est celui qui est le plus fort qui va devenir à un moment donné victime de tous les autres. Et donc, en fait, il y a toujours un espèce de truc dans Magic de jamais trop émerger pour être toujours un petit peu moyen, pour que personne ne nous prenne pour cible, etc., etc. C'est un peu ce qui s'est passé là avec Clément, d'ailleurs.
C'est un peu... c'est de la politique... oui, c'est de la philosophie chinoise. Cache tes forces.
Et oui, pour éviter de devenir la cible de tout le monde, en fait. Mais sauf que... Là, je trouve que dans Vampires, The Eternal Struggle, on n'a pas intérêt à s'acharner sur le plus fort. Pas forcément. Et on l'a bien vu dans cette partie, d'ailleurs. Clément nous avait averti. Qu'est-ce qui s'est passé ? On peut peut-être raconter. Yann ?
L'un de mes vampires a attaqué Clément. Il s'est pris une rouste monumentale. Et à partir de là, tout le monde avait vraiment l'impression que Clément était au-dessus du lot, etc.
Tu l'as attaqué. Il s'est défendu magistralement grâce à plusieurs équipements.
Ça a été simplement une défense, en fait.
Bien gérée, quoi.
Moi, je jouais un deck, on va dire, ce qu'on appelle type wall. Donc, grosse défense avec énormément d'interceptions pour bloquer, en fait, les tentatives d'agression.
Et tu t'es tellement bien défendu.
Ça a fait peur. Ouais. Et du coup, je me suis pris les quatre joueurs. Enfin, j'avais neutralisé bien évidemment Yann. Mais par contre, ça a foutu la trouille aux trois autres joueurs. Enfin, pas forcément toi, mais... Pierre, les deux joueurs politiques, oui.
Tu me dis, hein, si tu veux le micro, Pierre, je peux te passer le mien aussi. Hein.
Sachant que moi, j'étais la proie de Clément, et que du coup, je voyais qu'il n'arrêtait pas de se renforcer en boucle. Et du coup, dès qu'il y avait un vote qui était défavorable à lui, bah, je faisais en sorte qu'il se fasse pourrir, parce que je me disais, vu que moi, ma stratégie consistait à nuire en fait indirectement à Romaric qui était ma proie à moi.
Ouais.
Je savais que j'avais pas trop de défense parce que moi j'ai joué à peu de vampires, du coup j'ai laissé un peu les autres s'acharner sur Clément. Et puis après, de fil en aiguille, je me disais ça commence à se reprocher sur moi. Donc,
Mais en fait, dès le départ, Clément a été très offensif. Il a immédiatement. Je crois que tu as été le premier à poser un vampire sur table avec un vampire à 3. Et du coup, en fait, moi, de mon point de vue de Magic, je me suis dit, putain, il est en train de déborder. Tu vois, bah, c'était parce que j'avais point de vue Magic où je vois des créatures qui se multiplient, je me dis, ok. Et c'est pour ça que j'ai encouragé aussi, je me suis dit, à un moment donné, et d'ailleurs, j'ai hésité, mais finalement, t'as vu, t'as pas été la cible de mon vote. J'ai hésité à te faire la cible d'un vote pour t'enlever des points, et après, j'ai fait, ah non, je suis pas sûr.
Ouais.
Mais voilà quoi. Au début, moi aussi, je te voyais très très fort. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Julien, du coup, a décidé d'aider, en fait, donc Yann. À commettre une diablerie
Julien,
chez toi.
Julien, qui était mon neutre, a décidé de pousser Yann, qui jouait Malkavien, bouffer mon vampire qui se défendait, ma défense en fait, pas principale.
Ouais, exactement. Et en fait, ça a causé ta mort dès le début de la partie quasiment.
Oui, parce que derrière.
Ça a cassé l'équilibre de la table et j'en suis désolé.
En sachant qu'après la diablerie, Julien aurait pu me trahir et il a décidé de rester loyal.
Mais ce qui est marrant, tu vois...
Pour un joueur qui joue à la Sombra, c'est étrange, moi, je trouve.
ce qui est rigolo, c'est que tu vois, tu t'en veux d'avoir cassé l'équilibre de la table.
Bah ouais, non, mais parce que je l'ai bien eu. Après, c'est trop parti en sucette, quoi. Mais
tu vois, alors que généralement, un joueur qui casse l'équilibre d'une table, il s'en veut pas. Il est content, en fait.
Ouais, mais...
Il obtient un gain.
À Vampire, non, parce que tu t'amuses plus pareil, quoi.
Exactement. Ouais. Ça montre que c'est un bon jeu de diplomatie. Parce que c'est un vrai jeu de diplomatie. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas intérêt à casser trop vite un joueur et à laisser déborder les autres. Enfin, en fait, le mot struggle est très intéressant. Parce que dans un struggle, c'est un bras de fer. Il y a un côté équilibre de la terreur, puissance. Tu vois, le struggle, c'est vraiment un conflit, mais... En action, tu vois, c'est l'image de cette boule entre deux chevaliers du Zodiac ou je sais pas quoi, qui est retenue en l'air. Ils sont tous les deux en train de lancer leur attaque et la force est contenue, en fait, et c'est prêt à exploser. Et c'est, tu vois, c'est pas tout à fait pareil que les effets boule de neige, des trucs comme ça. Et là, le jeu t'incite à mettre en place un struggle, c'est-à-dire un phénomène d'équilibre de la terreur, équilibre des forces, etc. Alors que Magic en diplomatie, ça t'incite plutôt à faire des mécaniques d'alliance prédative, si j'ose dire, de s'allier contre un joueur le plus fort, puis contre le deuxième le plus fort, jusqu'à ce qu'en fait le plus faible l'emporte, ce qui est très bizarre, enfin, et même un peu malsain. Yann.
Bah, en plus, la différence qu'il y a avec Magic, et ça se ressent surtout en multijoueur, c'est que dans Vampire, là, il n'y a pas de combo. Toutes les notions de « ça y est, j'ai gagné », ça n'existe pas à Vampire, donc on est obligé de prévoir sur le long terme. On ne peut pas vraiment avancer caché et puis d'un coup renverser la partie et tout est plié. Et ça change pas mal de choses aussi.
D'accord, ouais. Donc toi, c'est ce qui te plaît beaucoup dans ce jeu, au-delà de la dimension équilibre de la terreur à tous, c'est le fait que à aucun moment, en même temps, ça va dans le sens de... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ça va aussi dans le sens du maintien d'équilibre de la terreur. Le fait qu'il puisse à aucun moment y avoir un combo dévastateur, ça fait qu'on a tous intérêt à jouer longtemps, longuement, à réfléchir, à se poser, etc. Et ça fait partie des grands plaisirs que tu ressens à ce jeu.
Voilà, bah c'est exactement, exactement ça. Et au final, contrairement à Magic, ou surtout en multijoueur, où on va prendre souvent du plaisir quand on commence à gagner, etc. Ouais. Vampire, je le vois plus comme un jeu à somme non nulle. C'est-à-dire, quand t'as l'équilibre, tout le monde va s'amuser un petit peu. Il n'y a pas vraiment de dominant, dominé, où ça varie très peu. Et au final, on s'amuse tous plus qu'un jeu où quelqu'un va vraiment prendre l'ascendant et écraser les autres, ou se faire après écraser par tous les autres.
Ça, c'est hyper intéressant. Et c'est pour ça que tu t'excuses, Julien.
Oui.
Et oui, non, mais c'est très important.
Du coup, Clément a été éliminé très tôt dans la partie, et du coup, c'est moche.
Ouais. Ouais. Gros épouvantail. Après, il faut savoir que dans la partie, quand on jouait à 5, il y avait un deck Ventru, un deck Nosferatu, un deck La Sombra, un deck Malkavien, et moi qui jouais.
Salut Brillant,
Titribu. Après, on va dire que la chronologie. Enfin. L'ordre des choses a été respecté.
C'est vrai que dans l'histoire, les saluts brillants et tribus, ils s'en prennent plein la tronche, clairement. Mais en même temps, c'est parce que leurs disciplines font peur. Ils sont effrayants. Voilà, je sais pas, j'ai pas très bien vu ce que ça faisait Valéren sur le board là. C'est ça qui te permettait de faire des dégâts aggravés
alors,
et tout ça.
Moi, je jouais deux cartes en combat. Je faisais des dégâts aggravés, donc il mettait un vampire en torpeur, et derrière l'attaque ne pouvait pas être esquivée en plus, et à côté de ça moi j'avais des cartes pour encaisser les dégâts à mort. Mon but était quand même d'encaisser fort, de latter fort à un vampire, de le mettre en slip, et par contre mais pas de pression forte au niveau au niveau de la perte de points de vie.
En fait, j'avais l'impression, un petit peu, si je devais le résumer en Magic, que toi, tu étais un peu la, je dirais, une 3-3, je dirais, ou plutôt même une 2 en attaque, 3 en défense. Là où le Malkavien, lui, je le sentais en mode 5-1 piétinement, quoi. Il avait tout en attaque, il était tout basé sur le... Donc Yann, t'étais tout en attaque, tout exposé, en fait, à tous les tours, t'avais intérêt d'attaquer, de prendre un max de sang et tout... Et voilà quoi. Et vous deux, vous étiez en mode très. En fait, j'avais l'impression qu'il y avait deux tables dans cette partie. Il y avait une table où vous jouiez attaque-défense, donc le board, le combat, machin. Et nous, on était vraiment plus avec Julien sur l'aspect politique du jeu. On avait beaucoup de gens qui étaient très haut placés dans le pouvoir, des princes, des cardinaux, etc. Et on se frittait, nous, plutôt sur les votes. Ça, faut expliquer. C'est quoi les votes, là? Comment ça fonctionne, cette mécanique-là? Qui veut... Julien?
Alors, en fait, les votes, c'est des actions où on va poser les termes, donc les cibles et ce qui va se passer. Mais avant que tout ça se résolve...
Ouais, soit résolu. Ouais.
Soit résolu, et ben on va faire un référendum. Et c'est tous les vampires autour de la table en fait qui vont voter pour ou contre, et on va voir si on résout l'action ou pas. Ouais.
Tu veux ajouter un élément?
Il y a l'abstention aussi qui est importante.
Ouais. Oui, tout à fait, très importante. Et donc il y a cet élément-là. Alors chaque carte est une action, chaque action peut être bloquée, donc un peu comme un sort dans Magic qui pourrait être contrecarré par d'autres cartes, etc. Une fois que la carte est passée, c'est là qu'on donne les cibles pour le référendum. Donc je vous donne un exemple de référendum, c'est on va retirer 4 points de sang autour de cette table, il y a 4 points de sang qui vont dégager. Sur 2 Mathusalem vont perdre une somme globale de 4 points de sang. Ça peut être 3 et 1, 2 et 2, mais en tout cas, il va y avoir des pertes. Je joue mon truc, là vous décidez de bloquer ou pas, machin. Mettons que ça passe, à ce moment-là je dis comment je compte distribuer. Et ça c'est super intéressant parce que la manière dont je dis... comment je distribue, ça va faire que je vais avoir des partisans ou pas. Typiquement, si je dis, je vais vous retirer 3 points de sang, donc qui sont les points de vie, on rappelle, c'est à la fois les points de vie et les points de ressources, c'est vrai que je ne l'ai pas dit ça, alors que c'est un élément quand même fondamental du jeu, que la mana dans le jeu, c'est en même temps ta mana et en même temps tes points de vie, donc les fameux points de sang, c'est pas des points de sang d'ailleurs, c'est des ressources de pouvoir.
Points de réserve,
ouais. Parce qu'ils se transforment en points de sang quand ils sont sur les vampires, mais tant qu'ils sont sur le maître...
Ils se transforment en points d'influence.
Attention à ton micro, on t'entend pas.
Ils se transforment en points d'influence pour prendre le contrôle de vampires.
Ouais.
Et voilà. En fait, ils servent à plein de choses.
Ils servent à plein de trucs. C'est des petits marqueurs rouges qui sont sur les cartes.
Ils servent à jouer les cartes.
Qui servent à jouer les cartes. Voilà. Et donc, évidemment, vous n'avez pas envie de perdre ces petits points-là. Donc, si je dis à Clément, tu vas perdre 3 points. Évidemment, il n'a pas intérêt à faire en sorte que ces vampires, donc ces personnages, votent en faveur de la motion qui consiste à lui faire perdre 3 points. Par contre, si je vois qu'il a du pouvoir, qu'il a beaucoup d'influence, c'est donc ses votes comptent beaucoup. que les votes de ces personnages sont importants. Bah, je vais avoir tendance à l'épargner et à aller dire non, mais en fait, c'est ton adversaire qui va perdre 2 points et puis le mien qui va perdre 2 points, ça te va, et puis on vote ensemble, tu vois. Et il y a tout un tas de magouilles comme ça, et moi j'avoue que ça me plaît beaucoup ça.
Ah bah, c'est typiquement du jeu vampire, ouais. Parfait. Mais... magouille.
Mais sauf qu'il y a la petite mécanique émergente que j'ai découvert dans le jeu, c'est que tu peux tout à fait mettre dans les votes des trucs qui s'y trouvent pas. Par exemple, à un moment donné, j'ai dit au Malkavien, je lui ai dit, bah écoute, moi je veux bien voter contre la motion qui te pénalise et donc pas faire passer le truc, si et seulement si tu attaques telle carte au prochain tour. Et là, je trouve ça quand même génial parce que du coup, tu peux derrière un référendum potentiètement cacher des enjeux ludiques complètement
différents. Après, ce que tu peux très bien faire aussi quand tu annonces, quand tu lances le vote, avant même qu'il soit bloqué, tu peux très bien dire comment tu vas cibler.
Oh, pardon.
Et après, tu peux très bien dire en fait, tant tu tues le monde et puis voilà.
Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. C'est-à-dire, tu peux très bien dire au début bon, je vous préviens, je vais faire ça. Donc là, du coup, personne ne bloque parce que ça arrange tout le monde. Puis à la fin, tu dis, bah non, en fait, je vais faire ça.
Ou tu peux très bien aussi prévoir. Il existe aussi dans des decks spécifiques vote.
C'est énorme.
Où, par exemple, tu annonces que tu vas faire, par exemple, tel vote. Et derrière, il existe une carte qui te permet de faire que le prochain vote va passer automatiquement. Mais ça, tu le dis pas.
Ah, c'est ouf! Bah comme la carte que j'avais qui faisait que plus il y avait de clivage dans le vote, plus les écarts entre le oui et le non étaient importants, plus moi je gagnais des points derrière.
C'est ça.
Je peux avoir intérêt à du coup pipoter un référendum un peu pourri pour très faire bien, du clivage oui. Et tout. Et en fait, ah, mais c'est génial et c'est tellement bon. Quoi. Et
t'as même des cartes où tu dis, ah oh ben non, finalement, il n'y a que les vampires du sabbat qui votent pour ce référendum. Et comme c'est un action modifier, tu joues ça après.
Sympa.
Oui.
Ou là, bah, sous les yeux, un vampire qui dit que quand lui lance un référendum, bah, si d'autres vampires veulent voter contre, bah, ils doivent payer un point de sang, donc un point de vie. C'est...
Ah mais tiens, mais c'est marrant, tu t'en es pas du tout servi de cette capacité.
Ah bah je ne sais pas ce qu'il fait là, parce que bah, il est là parce qu'il a des bonnes capacités pour taper aussi, mais j'ai l'impression que
il fait pas de politique en fait.
Ouais, le deck malkavien, il fait pas de politique. Enfin, le sien ne fait pas de politique.
Ouais, ça pourrait. Ouais,
okay. La politique malkave existe. Ils ont d'ailleurs, ils ont une carte qui est géniale en carte politique, qui permet en fait de à sa convenance de replacer les joueurs.
Autour de la table ?
Oui.
Oh, mais c'est complètement pété, mais ça crée... Oh, ça doit être trop chiant à jouer, par
contre. Bah,
c'est complètement interdit en tournoi.
Tu joues Malkav, par contre, ce vote passe, bah, tu prends ton pied. Enfin, c'est marrant, c'est jouissif à jouer cette carte. Parce que tu peux très bien dire, bah, en fait, je vais me mettre juste derrière lui, je vais le bouffer, et puis après, c'est un plan... C'est un plan bien, qui peut être bien huilé, qui peut être...
Ouais. Oui,
c'est un vote typiquement Malkav.
Ah, mais c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'à travers le chaos, en fait, une espèce d'ordre transcendant caché derrière le chaos, machin. Enfin, c'est... Effectivement, faut... ouais. C'est intéressant.
Et il y a, du coup, en fait, il existe plein de cartes qui ne peuvent être jouées que par
les clans. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en fonction de chaque clan, a des spécificités des cartes.
Exactement.
Qui est seul à jouer. C'est comme ça qu'on retrouve les couleurs de mana finalement. Les spécificités, par exemple, de Magic, où tu vois, les cartes rouges, elles ont des effets plutôt dégâts directs, les cartes bleues plutôt contre-sort, ou voilà, enfin, je ne veux pas vous rappeler tout ça, mais voilà. Et là, en fait, c'est comme ça qu'on les retrouve. C'est-à-dire que les clans ont leur truc, ont chacun des petites spécificités comme ça.
Ils ont surtout tous leurs faiblesses et leurs points forts. Et les faiblesses, par exemple, toi, bah, tu pouvais pas. Tu n'avais pas de discrétion.
Non. Moi, j'étais.
Tu peux rien passer discret, quoi.
Ouais. Je suis là, moi, quand j'arrive, c'est en costume. Enfin, tu vois, on me voit dans les rues sombres. Ça, c'est pas cool, quoi. C'était chaud, ça, de passer, d'ailleurs. Alors, un petit tour de table, peut-être. Pierrot, comment t'as trouvé le jeu, toi ? Qu'est-ce que t'en dirais du jeu, si
Alors, bah, moi, j'ai surkiffé, malgré quelques réserves. Je trouve que c'est le meilleur jeu de cartes que j'ai fait depuis vachement longtemps, en fait.
Le jeu de cartes
à jouer en général.
À quel niveau ? Au niveau stratégique et tout ça ?
Ouais. Ouais, déjà au
Qu'est-ce
niveau.
Que tu recherches dans les jeux de cartes en général ?
Bah, moi j'aimerais bien, dans les jeux de cartes, même si c'est pas vraiment faisable, enlever le. Je sais plus comment ça s'appelle. Tu sais, le côté information incomplète des jeux, tu vois. Les jeux information. Par exemple, les échecs, c'est un jeu information complète, t'as tout sur le board, donc tu peux tout jouer en âme et conscience.
D'accord. Ouais.
Et dans les jeux de cartes, bah, en général, bah.
C'est trop
aléatoire. Tu peux pas tout prévoir parce qu'il se peut que ton adversaire ait et trois comptes dans sa main alors que toi t'avais ton action qui reposait sur un truc. Mais j'ai bien aimé le jeu parce que déjà il respecte vraiment la couleur, l'ambiance de vampire et tout. Je trouve qu'ils ont réussi à retranscrire un peu ce qui faisait le sel du jeu de rôle dans le jeu de cartes. Et aussi il y a plein de petites mécaniques qui sont cool. Par exemple le fait qu'on puisse jamais être à court de cartes en main, parce que dès qu'on on dépense une carte, on en pioche une et on en a toujours 7 en main. Ça c'est trop bien parce qu'il n'y a jamais un moment dans la partie où tu vas te retrouver mort parce que t'as plus de cartes.
Ouais, chaque fois que tu joues une carte, tu repioches une carte.
Le fait qu'il y ait des joueurs partout autour de la table, ça, je pense que si t'es vraiment avec des barjots qui kiffent le jeu, ça peut commencer à faire des plans de ouf en mode « Vas-y, c'est lui, il joue ça à tel tour, qu'il le devine, machin. »
Clément, est-ce que tu as déjà vu des joueurs se séparer, c'est-à-dire des tables de joueurs faire des à côté, aller dans la pièce à côté pour discuter de stratégie ou ce genre
oui.
de choses?
Ouais, je l'ai déjà vu. Ouais. Après, j'ai fait énormément de parties, toujours avec les mêmes joueurs. Moi, j'ai découvert le jeu en 2002 par mon maître du jeu, Hunter, qui m'avait fait découvrir ce jeu. Ouais. J'ai vraiment adoré aussi, pareil. J'avais vraiment adoré la thématique où il n'y a pas de combo qui va complètement plier la partie et puis c'est terminé. Comme tu dis exactement la même chose que toi, Pierre, quand on joue une carte, on la recycle, on repioche derrière, donc on n'a pas vraiment de temps mort. Ouais. De toutes les parties que j'ai vues, j'ai jamais par contre vu de parties où par exemple il n'y avait que des decks de voteurs, purs voteurs, ou des decks purs agressifs, purs bastons. Il y avait toujours en fait des decks toujours différents.
Tu joues beaucoup à combien de joueurs en moyenne?
Moi, j'ai surtout joué à 4. J'ai énormément joué à 4.
Tu me disais en préparation du podcast qu'on dit que ce serait 5 le nombre idéal.
Éventuellement, ouais. C'est un jeu qui est réputé pour être idéalement à 5.
À 5,
ouais. Ouais, parce qu'on a 2 neutres. De tout ce que j'ai pu voir, ouais, j'ai jamais tombé sur des tables où il y avait quasiment que des decks différents. Là, on n'avait que 2 decks vote. Qui s'annulait, mine de rien.
Ouais. Oui, bah, un petit peu, ouais. Ouais.
Le deck que Pierre jouait, Nosferatu, basé sur animalisme. L'animalisme permet de faire c'est une discipline boîte à outils, en fait, qui permet de faire un peu tout et n'importe quoi. Moi, c'est un jeu où il y a une énorme diversité. On peut très bien jouer, je sais pas, Ravnos. Équipement, où on va éventuellement chourer les équipements des autres, les decks assamites qui sont vraiment agressifs, assassins, même à taper d'abord en premier aussi dans les phases de combat. Donc il y a
la variété de gameplay, tu dirais.
On peut très bien faire un deck La Sombra pur baston, alors qu'on peut faire un deck vote ou un deck basé à mort sur l'obténébration, enfin sur sa obténébration.
Donc tu dis même au sein des clans, on peut faire des
bien
decks
sûr.
Très différents en jouant
bien
le même
sûr.
Clan.
Tant qu'on n'a pas les mêmes vampires qui sont joués par les deux joueurs différents, c'est tout à fait possible. Ouais.
Et puis on n'en a pas parlé, Julien. Mais comme tu as des disciplines qui sont communes à plusieurs clans, bah, tu peux très bien mélanger aussi des clans. Tu n'es pas obligé de faire des decks monoclans. Mmh. Du coup, tu as pléthore de possibilités.
Pierrot ?
Et un dernier truc que j'avais ajouté sur le jeu, je trouve que c'est l'entre-deux parfait entre Magic et Yu-Gi-Oh! Parce que moi, j'étais un joueur de Yu-Gi-Oh! À l'origine, mais ça m'avait cassé. Ce qui m'avait énervé dans le jeu, c'était que tous les decks étaient basés sur le principe il faut que tu sortes tel combo assez vite et tu gagnes, et si ton adversaire peut pas counter et c'est fini. Et moi Magic j'aimais pas parce que je trouvais que c'était un jeu un peu lent et un peu chiant, alors que Yu-Gi-Oh c'était dynamique, en mode tu balances tes cartes partout tout le temps de manière frénétique. Et là il y avait le côté tu peux toujours jouer et c'est le rythme il est assez soutenu et en même temps tu as le temps de te poser et réfléchir pendant qu'il y a un petit tour de table, et ça c'était vraiment le côté bien. Je trouvais que c'était le parfait entre deux en termes de rythme de partie, quoi.
Yann, toi, ça fait combien de temps que tu joues à Eternal Struggle? T'as pas
Non, bah là, ça fait 3 parties que je fais. Et
donc, même question, qu'est-ce qui te plaît dans le jeu?
C'est vraiment un très bon jeu de cartes à collectionner, mais vraiment prévu pour le multijoueur. Parce que c'est vrai que la plupart des autres jeux de cartes, c'est conçu pour du 1 contre 1.
Ouais.
Et on bidouille pour faire du multijoueur derrière, mais ça reste du bidouillage.
Je suis d'accord.
Alors que là, c'est vraiment conçu pour se poser à 4-5 autour d'une table. Et ça se ressent dans les mécaniques de jeu, ouais, dans la manière dont ça se déroule, en sachant que moi, je ne connais pas du tout l'univers de Vampyr. J'ai jamais fait une partie de jeu de rôle, j'ai jamais lu un seul bouquin. Donc vraiment, j'ai découvert le jeu de manière totalement neutre. Je n'avais pas un attrait particulier pour l'univers, ni rien.
Donc c'est le jeu en tant que tel qui a su
voilà,
te séduire.
Les mécaniques, au-delà de l'univers, etc. Et là, même encore, quand on me parle des clans et autres, pour moi, c'est du chinois.
Hmm. Bah, donc du coup, Pierre va pouvoir te comprendre.
Ouais,
Julien, qu'est-ce qui t'a plu du coup dans Vampyr ? Dans le jeu de cartes. Pourquoi ben tu t'as vendu tes cartes Magic et tu continues à jouer à Vampyr,
ouais.
Explique-moi ça.
Alors, j'ai vendu. Bah, en fait, j'ai arrêté Magic parce que j'ai découvert Vampyr.
Et donc, c'était pas du tout de ma faute.
Alors, du coup, c'est grâce à Clément.
Alors, grâce à Clément, il n'est pas à cause.
Ouais, oui, mais...
Il ne regrette rien, tu vois.
Non, mais c'est en bon vrai, jeu. Quand j'ai commencé Magic au club de Dinan, les vieux joueurs jouaient à Vampyr. Et moi, ce qui m'avait rebuté, c'est que c'était en anglais. Quoi.
Ah,
et
ouais,
avec du recul, bah, je regrette parce que j'aurais bien aimé m'y mettre plus tôt. Quoi.
Mmh. Ouais, mais bon, l'anglais, c'était il y a des âges où c'est rédhibitoire. Hein.
Ouais.
Moi, l'anglais au lycée, je vois, en plus, c'est assez compliqué, tu vois. Enfin, faut connaître les mots-clés, quoi. T'as des trucs.
Oui.
Enfin, je sais pas. Il y a quand même beaucoup de mots-clés, quand même. Je suis désolé, moi, je vais peut-être un petit peu refroidir l'ambiance, mais. Il y a quand même des défauts dans Vampyr The Eternal Struggle. Il y a pléthore de mots-clés. Il y a des phrases. Parfois, je demandais à Clément de me les répéter. Attends, répète-moi ça, quoi. Tu vois, il y avait 4 mots-clés dans la phrase. À un moment donné, tu dis oui, bah alors si j'ai Valérenne et je fais des blessures aggravées, il y avait donc Valérenne, blessures aggravées, je ne sais plus ce qu'il y avait, mais je t'avais demandé de répéter. Et tu vois, il y a un côté vraiment. La première fois que tu découvres le jeu, c'est compliqué. Si en plus, il est en anglais. Pierre, Yann, je sais pas qui est. Pierre, Yann, ouais. Yann, vas-y.
Mais ça, c'est un petit peu comme dans tous les jeux. Hein. Dans les jeux qu'on connaît plus, ces mots-clés-là, on les connaît par cœur et donc on les lit plus. Mais on prend une carte magique et quand on va marquer vigilance, portée, piétinement, si on la montre à un néophyte, il va pas comprendre.
Il est en PLS, ouais.
Et là, on était nous aussi pour une bonne partie de la table des néophytes et donc c'était ces mots-clés-là, c'est les mots-clés qu'on va connaître sur d'autres jeux mais qu'on connaît pas là. Voilà.
Pierre.
Heureusement, moi et Romaric, on a une stratégie infaillible. On a fait en sorte que Clément meure, comme ça, il pouvait nous aider à lire nos cartes.
Ouais, c'est exactement. Tout ça était bien pensé, réfléchi. Enfin, t'inquiète. Hein,
non. Moi, par contre, il y a un truc que j'ai jamais trop capté dans le jeu, mais en même temps, c'est parce que je suis claqué. Et vu que les dates de jeu étaient écrites trop petites pour moi, c'était le combat.
Alors,
je
voilà.
Ne pigeais rien.
Ça faisait partie des gros trucs que sur lesquels je vais revenir avec vous. Le combat entre les vampires. Non mais what the fuck.
Il est vrai qu'il y a plusieurs actions. Enfin, il y a plusieurs actions dans un seul round. Il y a la phase qui détermine de préparation en fait du combat.
Ouais.
Ensuite, il y a la phase de détermination de la portée. Et après, il y a la phase de baston. Enfin, de latte.
Après, là, c'est pareil. Hein. Je pense que Yann, on peut dire la même chose de Magic. La phase de combat dans Magic, c'est foutraque. C'est autant incompréhensible le coup de la phase d'attaque. Alors, tu déclares ta phase d'attaque, tu déclares tes attaquants, alors les attaquants s'engagent. Puis ensuite, il y a une phase de déclaration des bloqueurs au cours de laquelle le bloqueur déclare ses bloqueurs. Puis ensuite, il y a une phase de résolution des dégâts.
Et puis, il y a tous les mots-clés, l'initiative et tout ce genre de trucs.
Et puis, la phase de fin de combat.
Et puis, voilà. Nettoyage des blessures et machin, j'en passais des meilleurs. Donc, en fait, c'est pas beaucoup plus clair non plus dans Magic. Enfin, voilà.
C'est juste une question d'habitude, je pense.
Ouais. C'est juste une question, effectivement, d'habitude. Et par contre, ce que j'ai trouvé assez fascinant dans la phase de combat, et même dans tout le jeu, c'est la manière dont l'univers, les mots-clés, en fait, qui sont dans le jeu de cartes, sont tirés de l'univers. Si tu prends l'esquive, si tu prends, je sais plus ce que t'as, la mêlée, les armes, même les armes et tout, tous les mots-clés, en fait, du jeu, ils émergent pas ex nihilo. Ils viennent de la base, de la fiche de personnage de Vampyr, quasiment tous.
Ah oui. Exactement, ça c'est aussi une chose qu'on n'a pas forcément abordé tout de suite, mais il faut savoir que les cartes que vous jouez, ce sont des cartes de discipline qui existent dans le jeu. Par exemple, vous avez, je sais pas, lecture d'aura pour Auspex, appel.
Toi, tu avais Majesté. Rouge,
Majesté. Ouais.
Majesté, Griffe de Fauve.
Mais même le combat, même dans le combat, j'ai noté que les termes que tu employais pour décrire le combat, dont je ne me souviens plus parce qu'il est trop tard, c'était que des termes qui étaient tirés de la base de Vampire, en fait.
Ouais.
Ouais. Donc là, c'est pareil, il y a Pierrot.
Et en plus, ils ont vraiment respecté les premiers vampires parce que les combats, ils sont horribles comme dans les premiers JDR vampires.
T'exagères.
Oui, c'est vrai.
À noter, au niveau des combats, et ça, c'est vachement lié au fait qu'à chaque fois qu'on joue une carte, on pioche une carte. Le fait qu'on soit amené à jouer plusieurs cartes, que ce soit pour les phases de combat ou au moment où... on veut faire une action et où on est bloqué, donc on va jouer des cartes, donc on va en piocher des nouvelles. Donc à chaque fois, on va espérer piocher des cartes qui vont nous permettre d'aller plus loin dans notre action, plus loin dans notre combat. Alors là, c'est vraiment que les deux joueurs qui sont impliqués, hein, qui le ressentent, mais ça crée une vraie dynamique dans l'action, sur le moment, une montée de l'intensité qui est vraiment appréciable.
Ouais.
Même si ça fait... ça donne des données cachées, un peu comme le disait Pierre tout à l'heure, où ça fait des éléments qui, contrairement aux échecs, ne sont pas connus, même du joueur qui le fait. Il sait qu'il va avoir des chances d'avoir des cartes en plus, mais il ne sait
ça
pas quoi.
Ça crée un petit aléatoire. Voilà.
Ouais, mais qui n'est pas non plus aussi poussé que dans certains jeux, parce que, étant donné qu'en en main, tu as 7 cartes, mais que les cartes ont des couleurs qui définissent leur usage dans certaines phases du jeu. À moins que le deck de l'autre soit construit pour ça, tu te dis pas, il va avoir 4 contre et je vais rien pouvoir tenter contre lui.
Il faut vraiment qu'il ait beaucoup de chance pour que ça fasse beaucoup de plus 5. Souvent, ça revient à faire une bataille, quoi. T'as une carte face cachée, éventuellement tu peux en piocher une autre, mais Clément.
Exactement, il n'y a pas de carte qui va complètement ruiner la partie.
Voilà.
Et de toute façon, d'une certaine façon, en fait, comme chaque vampire a une action, même si, on va dire, le personnage qui bloque ce qu'on a envie de faire avec un vampire, c'est pas grave, on va pouvoir continuer à, éventuellement une autre action avec un autre vampire.
Voilà, ouais.
Donc on va pouvoir peut-être rééquilibrer l'avantage qu'on a perdu.
C'est marrant parce que tu vois, en même temps, toutes les informations sont sur la table, donc il y a effectivement pas trop d'informations cachées et tout. En même temps, la complexité est telle que j'ai quand même eu l'impression, alors c'est peut-être parce que, c'est certainement même parce que je suis débutant, mais de faire un peu quand même des choix dans le vide un petit peu, ou parfois des choix où je me disais, bon, je sais pas trop où ça mène, tu vois. Tiens, je te donne un exemple de mécanique, par exemple, la mécanique du... J'ai vu qu'il y en avait dans pas mal de decks, il y a une carte qu'on met sur un vampire, et ça nous permet de prendre des points de sang du vampire pour les donner au maître, et inversement d'ailleurs, de prendre des points de sang qui appartiennent au maître pour le mettre sur le vampire, donc les points de réserve. Qu'on peut du coup convertir de point de maître à point de sang, enfin voilà, grâce à cette carte. Je savais pas trop si je devais, à quel moment je devais en prendre et à quel moment je devais en laisser, etc., etc. Les choix sont tellement petits que parfois tu te dis quel va vraiment être leur impact sur le jeu. J'ai du mal à voir les choix qui sont pertinents.
Alors qu'en fait, si, beaucoup. La carte que tu parles,
vas-y, poupée de sang, tout le monde la joue, donc j'imagine
typiquement,
qu'elle
typiquement, tu mets une poupée de sang sur un vampire, à chaque tour, tu le fais chasser, et à chaque tour, tu peux reprendre un point de sang. Quoi. Ouais. Tu prends un point de Clément. Réserve par tour.
Quoi. Clément. Poupée de sang, c'est probablement la carte qu'on voit dans le plus de decks, parce que c'est une carte vraiment de survie, globalement, qui va nous permettre de récupérer des points de vie qu'on a perdus.
Ouais.
C'est éventuellement une carte qui peut être extrêmement très intéressante pour en jouant sur un vampire qu'on a équipé ou qui peut se nourrir de un point voire plusieurs points de sang.
Mais donc du coup tu dirais qu'il faut prendre le point tous les tours?
C'est situationnel. Oui, ça dépend éventuellement ça peut dépendre en fait du type de jeu qu'on joue. Par exemple, on peut très bien jouer un jeu de cartes où on claque très peu de points de sang sur ses vampires. Éventuellement, ça peut être une dynamique où on joue plus peu de sang pour récupérer du point de sang, clairement. Mmh. Ou sinon, par contre, on peut très bien l'utiliser pour, dans un jeu où on brûle énormément de sang sur ses vampires pour faire extrêmement mal. Ça dépend, c'est situationnel.
Autre élément, j'ai du mal à évaluer la pertinence des cartes. C'est-à-dire que le jeu est tellement... tu voulais ajouter quelque chose peut-être, Pierre, avant que je reprenne
ça. Ouais, je pense que cette notion de choix dans le vide que tu évoques était beaucoup due au fait que tu jouais un deck qui, à mon avis, était très très compliqué. Parce que moi, avec mes Nosferatu, j'avais des choix plutôt clairs. Et pour te donner un exemple où je me disais vraiment j'avais des possibilités d'action cool, c'est qu'à un moment tu m'as mis une carte extrêmement puissante qui empêchait un de mes personnages de bloquer. Et c'était horrible parce que c'était mon meilleur défenseur. Mais du coup, vu qu'il avait cette carte poupée de sang, j'ai dit bon, bah maintenant, lui, ça va être ma réserve pour me remettre des points de vie à moi, indéfiniment. Et tu vois, j'avais l'impression d'avoir fait un choix éclairé à ce moment-là. Mais toi, je trouvais que tu avais un deck trop compliqué, en fait, pour un débutant, je pense.
D'accord, ok.
Parce que toi, c'était beaucoup de trucs à base de voter et puis.
Il fallait prendre en considération beaucoup d'éléments. Ouais, c'est vrai que dans les votes, tu dois prendre, comme on l'a très bien dit, c'est aussi une très bonne mécanique, une très belle mécanique, mais qui te pousse à avoir une lecture du jeu qui est très très fine. Donc c'est déjà un jeu pour joueurs qui a une très bonne lecture du jeu, donc une bonne lecture des cartes, donc une bonne connaissance de la banque de cartes. Effectivement, t'as raison.
Et puis moi, mon horizon de jeu, du coup, c'était... mon horizon de jeu, c'était plus d'apprendre, et du coup, j'essayais vraiment de gérer entre ma proie et puis mon prédateur, et je faisais pas trop gaffe au monde autour de moi. Tu vois.
Moi, j'avoue que j'ai beaucoup appris en testant, quoi, en jouant des cartes un peu dans le vide, random. Tiens, je vais tester ce référendum-là, on va voir comment ça va passer. Là, Clément m'expliquait une règle, et puis d'un coup, je fais « Ah, c'est cool, machin, je vais jouer comme ça. Enfin, » Tu vois, j'étais un peu... Et j'avais du mal à évaluer. Par exemple, il y a une phase dans laquelle on peut défausser une carte pour en repiocher une autre, j'avais du mal à évaluer la pertinence de la carte. Et d'autre part, moi j'ai trop l'habitude que les cartes, quand on les joue, c'est nous qui les jouons et pas les personnages qui jouent les cartes. Ça c'est... J'ai eu, par exemple, il y a des moments où je pouvais jouer des cartes et où j'avais tout simplement engagé tous mes persos et j'avais oublié que c'était à eux de les jouer, tu vois. Il fallait engager un personnage, ça c'était chaud. Il
faut engager son personnage pour pouvoir faire une action.
Ouais.
Par contre, de ce que j'ai pu remarquer dans quasiment toutes les parties que j'ai pu jouer, c'est le joueur qui joue le plus de cartes, donc qui pioche le plus, qui a le plus de cartes advantage et donc qui a le plus de chances de remporter la partie. Un joueur qui ne joue pas très ou très peu ses cartes, c'est pas bon signe. Donc d'où l'importance toujours de, même si on a des cartes qui sont intéressantes en main, de toujours avoir l'optique, ou surtout ou quand on est bloqué, on a la phase qui est extrêmement importante, mine de rien, qui est peut-être anodine, mais qui est extrêmement importante, c'est on a la possibilité en fait de défausser une carte pour pouvoir en piocher une autre.
D'accord. Donc en fait, moi ce que j'ai fait, c'est j'ai essayé d'évaluer l'importance des cartes pour savoir quelle carte défausser, quelle carte garder, etc. Tu me dis, il aurait fallu de toute façon défausser une carte par tour, jouer une carte par tour pour
défausser une carte.
Ouais, ok, très très bien.
Parce que de toute façon,
ça c'est un bon conseil à donner aux débutants, tu vois. Ce que tu viens de dire là, le truc de, c'est, je note que dans les parties, c'est toujours celui qui joue le plus ses cartes qui gagne à la fin. C'est un conseil de ouf à donner aux débutants parce que moi, tu vois, c'est pas du tout l'habitude qu'on a dans les jeux de cartes traditionnels.
Il faut savoir que si on joue le paquet qui va nous servir à jouer toutes nos cartes de pouvoir, c'est de 60 à 90 cartes qui font le deck. Pour toutes les parties que j'ai faites, j'en ai fait un paquet. J'ai jamais vu de partie où il y avait un mec qui avait pioché toute sa librairie.
Ouais.
Jamais vu. À part éventuellement, mais c'est dans un deck spécifique. J'ai un deck qui meule, complètement le deck de l'adversaire. Mais c'est vraiment un deck ultra thématique. Et même quand on pioche, non. Par contre, quand on a pioché toutes les cartes de nos decks, on n'a pas perdu. On peut plus jouer de cartes, mais on est toujours actif.
Parce que tu peux plus piocher de cartes.
Mais
faire d'action.
Ouais. Tu joues avec ce qui te reste de justement quoi.
À part chasser à 1 et blider à 1, enfin mordre
et diaboliser.
Ouais, bien à ça, bien diaboliser, tu t'en es bien rappelé.
Après, j'imagine que si tu n'as plus de cartes dans ta bibliothèque, c'est que tu en as joué beaucoup et donc que tu as beaucoup d'avantages en jeu aussi. Et peut-être sur la table, t'es pas mal. Mais encore une fois, tu n'as jamais vu ce cas de figure quasiment. Donc, ok, mais c'est intéressant quand même. Dans la plupart des jeux de cartes, il y a cette idée que le joueur débutant, les cartes lui brûlent les doigts et qu'il a toujours envie de les jouer trop vite et pas au bon moment. Il y a une idée de tempo, de quand est-ce qu'on joue les cartes. Et donc c'est extrêmement intéressant comme conseil de dire aux joueurs, recyclez beaucoup vos cartes, aussi pour ça, parce que ça permet d'expliquer le fait que non, t'es pas là pour savoir le meilleur moment pour jouer ta carte. L'objectif, là, pour l'instant, pour toi, débutant, entre guillemets, c'est d'abord d'apprendre à jouer des cartes, un peu n'importe comment, puis d'apprendre à jouer, en fait.
Parce que de toute façon, si on ne joue pas les cartes, on se retrouve dans une situation d'étranglement.
Exactement, ouais. Donc ça, c'est un élément quand même qui est important à préciser pour les joueurs débutants, pour cette raison-là. D'autre part, quand on n'a pas construit le deck, Parce que quand on est débutant, évidemment, on nous passe un deck, on nous explique rapidement la dynamique. Quand on n'a pas construit le deck, on n'a aucune idée de la... des cartes qu'on joue. On ne sait pas ce qu'on peut piocher. On ne connaît pas son espérance de son potentiel. Donc on n'a pas l'idée du trop du but du jeu. En plus, on n'a pas l'idée de ce, des cartes qu'on pourrait piocher éventuellement. Enfin, t'imagines, la difficulté d'évaluation du truc, elle est ouf, quoi. Mais comme le disait Pierre, ça venait peut-être aussi du jeu Ventrou, je ne sais pas. C'est peut-être pas un jeu à donner aux débutants, quoi, Ventrou.
Ah, peut-être.
Oui, parce que le deck Nosferatu que tu as eu, Pierre, il était vraiment... Je l'ai découvert aussi, il était franchement super bien, même pour un assez simple à jouer.
Et Malkav aussi, j'ai trouvé que c'était peut-être un bon jeu pour débutants.
En même temps, c'est le meilleur clan de vampires, donc normal.
Complètement partisan. Toi, tu as toujours joué le jeu Malkavien. Yann, à quoi t'as joué ? Avec quoi t'as joué ?
Alors, la fois précédente, donc j'avais joué, c'était les Nosferatu, mais c'était pas tout à fait le même deck. Et la fois d'avant, je sais même plus ce que j'avais joué. Ça remonte à trop longtemps.
D'accord, ok. Ah oui, donc ça faisait longtemps que tu n'avais pas rejoué.
La partie précédente, c'était il y a 2-3 mois peut-être, grand maximum. D'accord, et l'autre partie, c'était il y a plus d'un an.
Ah ok, donc, ouais, d'accord. Tu dirais que tu ne joues pas assez à Vampire Cité. Tu aimerais bien jouer plus ?
Plus. Bah, c'est vrai que c'est... Alors, les parties sont plus longues que les jeux de cartes classiques, mais c'est vrai que c'est...
Ah oui, c'est long.
C'est vachement plus sympa, plus convivial, on va dire, qu'un jeu de cartes basique en un contre un, où la partie est rapide, on peut échanger entre, mais souvent la partie est plus sérieuse, là c'est plus détente, il y a beaucoup d'échanges entre les joueurs. Donc ouais, j'aimerais bien pouvoir jouer plus.
D'accord. Bah là, ce qui était compliqué, c'est que nous deux aussi, avec Pierrot, on était en mode surcharge cognitive, donc on était vraiment concentrés, on n'avait pas trop le temps de faire des blagues, de déconner. Parce que moi, à chaque fois, j'ai eu le temps, justement, de la ressource de cerveau disponible pour faire des blagues et déconner. Ça y allait, franchement, j'essayais de faire de la politique, de faire « Ah, tu crois pas que tu pourrais faire ?» Et là, je m'éclate. Dans cette
émergence. T'as même osé un peu de RP, oui.
Ouais, voilà. Mais non, mais moi, je m'éclate. Voilà, quoi. Mais dans Magic, je en ferai aussi. Tu me verrais jouer à Magic, je suis à fond dedans. Enfin, voilà. J'aime bien la dimension politique de ce jeu. Je trouve qu'il y a une émergence de ça, de cette... C'est pas que de la diplomatie entre joueurs, tu vois. Je pense que tu peux faire de la vraie politique, de la vraie... Enfin, vraiment, prendre à part les gens, etc. Mais bon. Alors, tu disais qu'il n'y avait que 2 heures de partie seulement, en limité. C'est-à-dire qu'on a, c'est dans les règles, ça,
si vous jouez c'est en tournoi, je crois. Mais
Ouais, mais du coup, c'est dans les... Ouais. Et pourquoi ils font ça ? Parce que sinon, les parties seraient trop longues.
Oui, les parties seraient trop longues. Là, de toute façon, nous, on a joué la partie qu'on a faite de démonstration. On a joué 2h30, 3h, je crois. On n'avait pas fini la partie. Ouais. Donc, il y avait quand même le temps d'explication. Il y avait encore au moins une demi-heure de jeu, si ce n'est plus. Ouais. Après, ouais, comme c'est un jeu qui implique beaucoup de joueurs, Ouais,
c'est vrai qu'il faut dans un tournoi, il faut aussi tourner, quoi, parce que la personne qui meurt assez rapidement ou quoi.
Ouais, il se fait chier. Donc, moi, dans mon cas, je vous ai un peu babysité tous les deux. Ouais. Il faut savoir aussi, pour savoir qui est le gagnant, c'est que c'est pas forcément le dernier vampire, dernier Mathusalem qui est en vie, qui est le gagnant, parce que ça fonctionne plus en fait au point de victoire. À chaque fois qu'un joueur élimine en fait sa proie, à chaque fois que la proie est éliminée, en fait il marque un point de victoire.
Et peut être éliminée par quelqu'un d'autre.
Elle peut être éliminée par quelqu'un d'autre, par du vote ou autre chose.
Il peut gagner des points de victoire alors que c'est quelqu'un d'autre qui a éliminé sa
exactement
proie. C'est très sympa. Pareil, ça crée du jeu politique. Pierrot, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus ?
Ouais, moi je pense que c'est ça que je regrette un peu avec le jeu, mais c'est pas vraiment un défaut du jeu, mais j'adorerais m'y investir parce que ça a l'air excellent, mais je trouve que le coût d'y jouer est trop énorme, en ce sens qu'il te faut 4 copains qui connaissent le jeu comme toi, pouvoir y jouer fréquemment jusqu'à ce que tu puisses connaître les cartes et les parties sont longues et tout. Et je pense que ça doit être un frein pour le jeu, je pense.
Mais après, tu peux pas embarquer... Ouais, vas-y Julien, pardon.
Ouais, mais si les gens motivés comme toi, ils s'arrêtent pour ça, il y aura jamais assez de joueurs pour s'y mettre.
Ouais. Après, je crois que il existe des packs de préconstruits où il y a 4-5 decks tout fait, et donc ça te permet de juste de l'ouvrir un petit peu en mode jeu de société. Hein.
Ouais, et les préconstruits sont vraiment vraiment bien foutus. Les préconstruits actuels qui sortent depuis quelques temps, ils sont vraiment en format pour jouer en version accélérée. Il y a 6 vampires dans la crypte. On a un deck de 40, je crois, ou 40.
Ils ont fait des demi-decks, en fait.
Ils ont fait des demi-decks vraiment
d'initiation. Qui sont excellents, ouais.
Et du coup, si on veut un deck complet, bah, on achète éventuellement 2 fois le même préconstruit.
Bah, sinon,
et
ça fait maintenant, il y a une pléthore de vrais préconstruits aussi, en aussi. 77 cartes, qui sont tous fabuleux. C'est parce que c'est Black Chantry, quoi. T'imagines, c'est comme si Magic ouais, demain, c'était des joueurs quoi, qui créaient les packs. Ce serait plus la même, quoi.
À l'époque où le jeu était édité par White Wolf ou même avant, par Wizard of the Coast, il faut savoir que le rythme d'édition n'était pas du tout comme Vampire. Il sortait une édition tous les 6 mois, voire moins. Donc on avait le temps d'acheter les cartes, de comment de se faire ses decks. On n'était pas, il n'y avait pas derrière une démarche vraiment mercantile.
Comme Magic aujourd'hui à sortir bien une sûr. Boîte
une édition peut-être les 2-3 mois et demi. Tous les 2-3 mois.
J'ai 3 questions à vous poser. La première, c'est par rapport à morsure. À un moment donné, donc Julien, tu as fait cette réflexion, tu as dit le mot morsure dans le jeu est malheureux. Est-ce que tu pourrais expliquer ça? Pourquoi est-ce que c'est malheureux?
En fait, la traduction française, globalement, elle est super bien, mais il y a ce terme-là qui est.
Qu'est-ce que c'est la morsure dans le jeu?
En fait.
Qu'est-ce que c'est la morsure dans le jeu?
Alors, la morsure, c'est.
Quand on attaque avec une créature et qu'elle blesse un joueur.
C'est le fait d'aller attaquer directement les points d'influence d'un autre Mathusalem.
D'un Mathusalem. Alors, ça, c'est très important. Le Mathusalem, on rappelle, c'est le joueur.
Ouais, c'est ça.
C'est pas le personnage. Donc, c'est pas un vampire. Enfin, si. Mais c'est un grand ancien enfermé. Enfin, c'est un peu un.
C'est ça.
Voilà.
Après, c'est un peu un dieu, en fait. Il est vrai que la traduction. Enfin, dans la version anglaise, c'est Bleed.
Bleed.
Il n'y a pas vraiment d'équivalent. Alors,
t'avais proposé Yann affaiblissement. Je trouvais ça assez. Ça explique. Parce qu'en fait, moi, ce que je trouve dangereux avec le mot morsure, c'est que ça donne l'impression que le petit vampire, la petite frappe des rues, l'anar, il a accès à la crypte du Mathusalem et qu'il va lui bouffer la gueule. Dans le jeu, c'est absolument. Dans le jeu de rôle, c'est absolument impossible d'approcher un Mathusalem. Enfin,
ce serait peut-être, en fait. Limite plus de la perte d'influence
perte d'influence saignement
mais voilà on donne une action à plus de
bleed, c'est
de perte
saigner,
d'influence
c'est
bleed c'est oui ça s'écrit BLDED
ça doit être saigner
oui.
Est-ce que saigner en fait tout simplement au sens de saigner quelqu'un c'est pas
c'est
saigner
ben ça dépend parce que par exemple il y a des cartes genre computer hacking donc piratage informatique qui font morsure à plus 1. Donc on ne fait pas de morsure avec un ordinateur jusqu'à preuve du contraire.
On fait pas saigner mais les c'est, gens pour avec moi, un ordinateur.
Ouais. C'est dans ce sens-là où en fait, je vois plus le terme en fait, perte d'influence. Parce que ce n'est pas forcément où il y a le vampire qui attaque, ouais, mais il y a avec des cartes ou éventuellement avec des alliés.
Intéressant. Autre question que j'avais envie de vous poser, de questionner avec vous, c'est cette histoire de PV influence. Quand vous avez expliqué cette règle les uns les autres, vous avez eu les yeux qui pétillaient. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, dans le fait que les ressources soient vos propres points de vie? Pourquoi est-ce que ça vous fascine autant dans le game design du jeu? Je sais pas.
La gestion.
Je trouve que c'est clairement ça qui crée l'équilibre par rapport à Magic. Quoi.
Alors pourquoi?
C'est pas totalement. Parce que tu peux pas te développer comme un malade et partir
si
en combo.
Si tu te développes comme un malade, tu prends.
Bah, tu t'affaiblis, du coup, tu deviens vulnérable. Donc,
mais il y a quand même une couleur dans Magic qui fait ça. C'est le noir.
Bah, non, ouais. Ouais, c'est vrai.
Ça fait penser à ça.
En même temps, c'était ma couleur préférée, hein, Magic.
Et c'est un jeu de vampire.
C'est la meilleure couleur.
On retrouve cette idée qu'on se consomme soi-même pour obtenir du pouvoir.
Ouais.
Il y a quelque chose aussi dans le propos, dans la poésie du truc. Il y a quelque chose d'hyper intéressant, tu vois.
Et après, contrairement à Magic, des decks, enfin, on ne peut pas faire vraiment de deck points de vie à vampire. C'est possible avec des cartes de récupérer du sang, mais jamais on... jamais on déborde, on dépassera. Non, le système fait qu'on va toujours on consommera.
Pour attaquer. Il y a cette phrase dans Blade Runner, une flamme qui brûle deux fois plus brûle deux fois moins longtemps. Et quand tu joues tes ressources, bah forcément, si tu crames la ressource, bah tu te crames toi-même et tu finis par mourir, etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi, du fait qu'on a l'impression de se consommer soi-même quand on joue à ce jeu. Et ça, j'ai trouvé que c'était quand même une mécanique extrêmement élégante. Enfin, ça... Je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeux en fait, qui utilisent ce genre de mécanique. Est-ce que vous, j'ai pas d'autres exemples. Et ça me dit quelque chose quand même. J'ai l'impression qu'il y en a un qui le fait déjà, enfin, ou qui le fait aussi. J'allais dire qu'il le fait déjà, mais qui le fait aussi.
Il y a, c'est pas exactement équivalent, mais dans le jeu de cartes L5K, chaque tour tu gagnes.
Oui, exact.
Tu gagnes des points de destin que tu investis sur tes personnages, mais par contre ils en perdent un à chaque tour. Du coup, quand tu balances des gros samouraïs sur le champ de bataille. Bah, t'as leur coup initial plus le fait de leur donner du destin qui allait maintenir en vie. Et tu peux aussi jouer avec tes honneurs. Et si tu perds ton dernier point d'honneur, tu perds la partie. Et t'as les scorpions dans ce jeu qui jouent beaucoup sur ça, le fait de se déshonorer pour déshonorer les autres. Des trucs comme ça.
Bon, ça, je trouve que quand même, c'est une mécanique du jeu qui mérite d'être soulignée parce qu'elle a une élégance en plus esthétique très très forte et tout. Enfin, je trouve ça très intéressant. Et puis, la dernière question que j'avais envie de vous poser, c'est comment vous avez appris à jouer, bordel ? Parce qu'il faut forcément quelqu'un qui te transmette les règles. Je veux pas... Vous avez pris un livre et puis vous avez appris à jouer en lisant un bouquin ?
Non, moi, c'était mon MJ avant Pierre qui m'a dit « essaie ce jeu-là ». J'ai été son premier, joueur. Alors, je sais pas. Probablement, il avait appris sur Arène, en fait, dans sa période étudiante. Il a certainement appris Arène via des joueurs du Monde des Ténèbres aussi. Après, moi, j'ai fait découvrir. J'ai fait une initiation de partie à Julien avec deux copains.
La transmission, c'est un peu comme du jeu de rôle, quoi. C'est un jeu ou comme des jeux très très complexes comme justement Magic, le Val et compagnie. C'est des jeux, en fait, s'il n'y a pas quelqu'un, un passeur, tu vois, physique pour t'apprendre à jouer et tout, franchement, apprendre à jouer à ça dans un bouquin,
Alors,
y a des règles bien faites qu'on peut trouver sur internet.
Oui, bien sûr. Alors, il est vrai que depuis le nouvel éditeur, ils ont un bouquin, ils ont un feuillet d'explicatif des règles qui est ultra complet. Voilà. Parce que nous, on avait à l'époque où j'ai joué, nous, on avait le petit feuillet comme dans les préconstruits Magic, hyper dense, écrit en tout petit. C'était un peu lourd, un peu à lire. Mais là, non, le feuillet explicatif de REL qu'ils ont, il est bien foutu.
Et en plus, il est gratos. Tu peux le télécharger sur leur site dans toutes les langues. Dans toutes les langues où ils l'ont traduit.
Ça, il va falloir que vous me donniez le lien pour que je puisse le partager avec ce podcast. Ce serait pas mal. Pierrot, tu veux ajouter quelque chose ?
Je trouve que les règles, elles sont pas pires que dans d'autres jeux de cartes, type Yu-Gi-Oh, des trucs comme ça. Parce que c'est...
T'as vu les deux jeux qu'on avait à côté de nous ?
Ouais, mais c'est pas un jeu qui marche sur un enseignement de petites mécaniques, de précision, de trucs...
Le combat, c'est ça, justement.
Oui, mais tu enlèves le combat qui est une phase plutôt marginale
même
dans le jeu.
Le fait de jouer des cartes, qui vont elles-mêmes jouer des cartes, déjà c'est extrêmement compliqué à expliquer en termes de règles. Le fait le vote...
Les deux mots, je trouve que c'est les mots-clés, les combats le plus dur à appréhender dans le jeu, puis après ça roule.
Non mais tu vois, dans la plupart des jeux, par exemple, il y a une mécanique de vote, il y a un chiffre sur la carte. Écrit, cette carte vaut deux votes.
Ça c'est vrai.
Là c'est prince, c'est cardinal, c'est baron. Et encore, le baron, j'ai appris ce soir, un truc très intéressant pour moi, c'est que les barons chez les anars, c'est les chefs des anars, les barons. C'est ça. Le baron, c'est le prince, c'est l'équivalent du prince.
C'est l'équivalent d'un prince au niveau des coups de vote. Après, pour l'histoire, là, faut laisser les autres.
Donc le chef des anars, c'est un baron. Non, mais
c'est le seul rang chez les anars, en fait.
C'est le seul rang chez les anars. C'est le chef. Ils ont combien de voix, les barons ?
Deux.
Anna, deux. Deux. Mais tu vois, c'est extrêmement. Ça, par exemple, tu prends n'importe quel jeu de cartes où il y a des votes. le vote, il y a un petit 2 avec un rond entouré autour. Là, c'est, tu vois, il y a un petit complexité.
Il est vrai que c'est spécifié dans le bouquin de règles. Donc, il faut feuilleter le règle, voilà. le livre de règles.
Mais il y a plein
de choses. Ce qui est important, il est vrai, comme tu viens de le dire, c'est qu'il y a les postes importants dans la vie vampirique existent. Primogène, prince, comme tu dis, cardinal, et même les inner circles sont aussi présents. Donc il y a les évêques, enfin les bishops, archibishops, cardinaux. Il y a aussi les priscus dans le sabbat.
Il y a les régents.
Il y a les régents.
Il y a les justicards. Ouais, en fait, il y en a une palanquée.
Et il y a aussi, ils avaient fait une édition sur les royaumes d'ébène. Donc il y a aussi la présence de Laibon, les lignées du coup africaines qui sont aussi présentes l'édition qu'ils ont faite.
Donc il y a d'autre part. Les dessins, les illustrations sur les cartes ne rendent pas le jeu si accessible qu'un jeu comme Magic. Tu vois, dans Magic, un éléphant, il a une tête d'éléphant, tu sais que c'est un éléphant. Ce qui fait la différence entre un, tu vois, entre quelqu'un qui a augure et quelqu'un qui a présence, honnêtement, sur une carte vampire, c'est pas évident. Donc il y a les petits logos, il y a les petits pictos, mais ça reste des pictos, c'est pas. Tu vois, donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a un coup d'entrée quand même visuel. En termes de mécanique, en termes de mots-clés, en termes d'un... Si tu connais pas le jeu de rôle vampire, alors justement, c'est pour ça que je me retourne vers toi, Yann, là-dessus, c'est pas extrêmement difficile quand même à appréhender.
Pas plus que Magic. Il y a des choses... Après, de toute façon, les symboles, notamment au niveau des pouvoirs... il suffit de dire tel symbole qu'il y a sur la carte d'action, faut que le vampire il l'ait. Si le symbole il est incliné sur la carte de vampire, je peux faire le pouvoir avancer, etc. Ça reste relativement clair. Il y a peut-être quelques éléments qui sont un peu obscurs, notamment le fait que les votes soient pas le nombre de votes soit pas noté. Mais bon, si on va par là, les couches à Magic, par exemple, pour ceux qui connaissent, c'est une horreur sans nom. Et
la règle de la pile, Clément. Ne serait-ce que ça, la Magic, la règle de la pile, il y a pas ça dans Vampire. Ouais. La règle de la pile avec je joue avant.
Moi je connais la plupart des joueurs de Magic qui vont dire que justement c'est la richesse de Magic, la pile. C'est ce qui fait que le jeu il est complètement gueudin. C'est que cette histoire.
Avec des règles aussi qui niquent la règle de la pile aussi, oui. Avec flash, la capacité de flash.
Fraction de seconde.
Oui, voilà, fraction de seconde.
Mais la pile à Magic, on est d'accord, c'est une richesse. C'est pour ça que j'ai bien parlé du système de couches qui va se baser en fond. Il y a 6 ou 7 couches en fonction du type de carte, de quand la carte est arrivée, de comment est rédigé son effet, qui est totalement imbitable. Il faut vraiment être juge ou autre pour pouvoir comprendre. Et pourtant, ça fait partie des règles. À partir du moment où un jeu a de la profondeur, il y a nécessairement des points qui peuvent être obscurs. Et je les trouve pas si obscurs que ça dans ce jeu-là, même quand on connaît pas du tout l'univers.
Alors ça, c'est un petit défaut technique sur lequel je reviens un petit peu avec toi, Yann. C'est le coup des pictos en losange ou en carré. Non mais non, quoi. Ça, non, quoi. Enfin, je veux dire, tu fais un rond et un carré. Mais tu fais pas. Parce que quand une carte est engagée, le losange, ça devient un carré. Donc, faut être malin, tu vois. C'est-à-dire que losange carré, quand tu dois engager des cartes, c'est compliqué. Ah bah là, je disais, j'encule des mouches. Mais quand même, c'est un petit peu. Moi, en tout cas, je peux te dire que ça m'a perdu. Hein. Il y a plusieurs fois avec Elena et Meventrou, là, j'étais un peu perdu sur est-ce qu'ils ont en priorité, etc. Bon, ça a l'air, hein, c'était pas dramatique. Mais bon, je trouve ça rigolo, quoi. Le coup du carré et du losange, alors qu'on engage la carte, il y a peut-être un truc à faire, là, quand même. C'est pas très mal. Hein.
C'est vrai que j'ai capté la distinction qu'après que les losanges, j'étais en mode avancé, j'étais en mode putain, mais je suis trop con.
Mais ça, c'est sympa, quand même, le fait qu'il y ait des caracs en avancé et que, du coup, les cartes fassent des effets. C'est-à-dire que le fait de jouer avec tel ou tel vampire qui est plus maître de la discipline, ça fasse des effets différents. Par contre, là aussi, c'est pareil. c'est complexe, mais putain, quelle richesse, quoi. Ça apporte un truc vraiment très intéressant. Clément ?
Il y a certaines cartes, oui, notamment, qui sont jouables que par des vampires de haute génération et qui ont une influence sur des vampires de plus petite génération, enfin plus basse.
Ouais. Ouais. Ouais, ça, faut faire attention quand on joue sa carte. Dernière petite question avant de vous laisser, parce qu'il est déjà vachement tard. Pourquoi tu fais des tournois, Clément, de vampires ? Qu'est-ce que tu vas trouver dans la compétition autour de ce truc ?
J'en ai fait qu'une seule fois un tournoi.
C'était bien, c'était pas bien,
J'avais vraiment bien aimé. Bon, on rencontrait de nouveaux joueurs, on voyait des decks qui, à l'époque où j'avais joué, il n'y avait plus les éditions qui nous permettaient, par exemple, de jouer les vampires du sabbat. Moi, j'ai commencé à l'édition Camarilla. Et il y avait quand même un joueur qui avait sorti un deck, la Sombra, il me semble. Il y avait un autre qui avait aussi sorti un deck Ventru anti-tribu, qui était assez intéressant. Et il y avait aussi dans l'édition Camarilla, je crois que dans les préconstruits qui étaient possibles, il n'y avait pas le Gangrel, et il y avait un joueur qui avait un deck Gangrel aussi. C'est la tension, en fait. Le tournoi est agréable, mais c'est pas non plus... c'est pas de l'ultra compétitif comme je dirais, comme à Magic.
Le but, c'est pas
c'est du multi. C'est du multi. Alors que Magic,
il y a des équipes. Par exemple, est-ce que tous les decks Ventru jouent ensemble et à la fin déterminent
pourquoi
le clan
pas, qui a gagné. Ça peut être éventuellement des thèmes assez sympathiques, ouais. à voir.
Ça
c'est vrai que c'est
mieux de faire gagner un joueur, on fait gagner des clans, tu vois.
Ça pourrait être des conditions intéressantes où on modifie à nous-mêmes d'une certaine façon en fait le jeu en lui-même et on fait par exemple je sais pas deux decks Brujah contre deux decks Ventru, pourquoi pas.
Toi, quand t'avais joué, c'était quoi les modalités de victoire ? C'était juste
il y avait un joueur qui gagnait. Celle qu'on a jouée, hein, les points de victoire, basta.
Mais du coup, il y avait un joueur qui gagnait le tournoi. Comment on établissait le classement ? Gagner toutes les tables, comment ça se passait, tu te souviens un petit peu ou pas du tout?
C'était il y a super longtemps.
En fait, ça m'intéresse si tu veux parce que ça montre l'esprit du jeu en fait indirectement. Est-ce que la question que je me pose, c'est qu'on dit depuis le début de la table, hein, depuis le début de cette table ronde, on se dit on décrit bien le jeu. Moi maintenant je recherche l'esprit. Est-ce que le jeu te pousse à avoir un certain skill? Si oui, lequel? Est-ce que c'est un jeu pour jouer ensemble, un peu comme la belote, pour créer de la convivialité? Est-ce que c'est un jeu pour célébrer Vampire la Mascarade ou Vampire le Dark Age, c'est-à-dire pour à nouveau jouer à Vampire sans jouer à Vampire, ou etc. Quel genre de skills sont attendus par la communauté de ce jeu? Est-ce qu'on veut vraiment être le meilleur joueur, genre ce serait le meilleur Mathusalem? Ou au contraire, on est plutôt là en mode un peu comme L5R à une époque? L5R, il faut savoir que les tournois d'L5R servaient à écrire la suite de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils se servaient des tournois pour savoir quel clan allait gagner dans la campagne de jeu de rôle d'après. Si, par exemple, le deck qui avait gagné, c'était le clan de la grue, et ben c'était la grue qui allait truster en fait, le jeu de rôle, la prochaine édition du jeu de rôle et la prochaine campagne. Est-ce qu'il y a une volonté comme ça de mêler la fiction au jeu de cartes ou pas du tout? Est-ce que c'est juste du skill de joueur? Enfin, voyez un petit peu où je veux en venir. Non, quel est l'esprit de ce jeu, en fait, derrière? Qu'est-ce qu'on attend d'un genre de...
Ils ne l'ont pas fait. Il n'y avait pas forcément d'influence des compétitions sur le jeu de rôle. Pas du tout. Pour moi, c'était un jeu à la fois compétitif mais convivial. C'est pas aussi, y a pas d'aussi grand hardcore, on va dire, gamer à Magic qui s'entraîne nuit et jour, qui font ça. Ouais. Limite, ça peut être du pro. Il y a jamais vu de pro Vampire. C'est vraiment, pour moi, c'est un jeu de passionné.
Mais
en fait.
Est-ce qu'ils auraient voulu qu'il y en ait?
Alors je sais pas, peut-être qu'il y a éventuellement une volonté. Je crois qu'il y a des prix qui sont gagnés pour les tournois, mais je crois que c'est dérisoire rapport au.
Bien sûr, j'en doute.
Il y a des cartes quand vous achetez un booster. Oui, il y a les communes, Unko et les rares. Mais les cartes en elles-mêmes, elles ne valent pas, elles n'ont pas la même valeur que les cartes Magic. Ouais.
Elles l'auront jamais, tu vois.
Il faut savoir qu'il n'y a plus de boosters. Avec Black Chantry, c'est fini les boosters. Ils n'en font plus maintenant. C'est que du pré-construit, des bundles. ne sont pas là pour faire du pognon.
On peut encore... c'est difficile de trouver des boîtes de boosters complètes. C'est très rare, mais c'est super. Mais ça coûte la peau des roustons.
C'est rigolo parce que vous me répondez sur la logique industrielle des éditeurs ou des distributeurs du jeu. Mais moi, je me pose la question du point de vue des... J'ai risqué le mot, du point de vue des auteurs. Tu vois, qu'est-ce qu'ils avaient envie d'encourager ? Parce que, par exemple, moi, Magic, ce que je ressens dans Magic, au-delà de Richard Garfield, à partir du moment où c'est Wizard of the Coast qui l'a pris en main, moi, j'ai senti une volonté d'aller plutôt vers la compétition sportive et une dimension... Allez, aliénante. Il y a un côté, on va vous enfermer, un peu comme Apple, tu vois. On va vous enfermer dans un dispositif qui va faire que vous allez consommer Magic, vous allez vivre Magic, vous allez jouer Magic, vous allez... Tu vois, on va t'enfermer dans un espèce de monde, machin. Est-ce que Vampire n'a pas été pensé un peu plus émancipateur, un peu plus, on va vous amener vers le jeu de rôle, Vampire, peut-être éventuellement. On va aller capter des joueurs qui jouent à Magic et on va les ramener vers peut-être des choses plus imaginaires, peut-être des choses plus collectives, peut-être une dimension justement dans la diplomatie, peut-être ramener peut-être des gens au jeu de société.
Une vitrine sur le soit de plaire éventuellement, de proposer éventuellement un nouveau système de jeu à des joueurs de Magic. De leur montrer un nouveau style de jeu, et éventuellement peut-être les amener au jeu de rôle, probablement.
Les ramener au social. Parce qu'en fait, le problème de Magic, malgré tout, a été créé par un mathématicien, et il y a une dimension, on se mesure la quéquette cérébrale du cerveau, du calcul, du machin. Il y a un côté, tu vois, dans Magic, il y a un côté un peu compète, tu vois. Un peu, Clément, tu disais quoi ? Je t'ai pas entendu.
Ah oui, de calcul. Il n'y a pas de.
Vampire, j'ai pas l'impression que ce soit l'objectif. Tu vois, c'est pas du calcul, c'est du social. On discute. On regrette quand un joueur perd. C'est incroyable. On est malheureux quand un joueur perd.
C'est parce que Julien, c'est un très bon joueur. Un très bon joueur agréable, c'est pas du tout.
Hein. Ah oui, mais justement, est-ce que c'est pas la cible de Vampire ? Mais juste, alors là, ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant.
Probablement, ouais.
Tu vois la question sous-jacente, est-ce que l'esprit du jeu, justement, c'est pas une certaine forme de convivialité, d'échange entre les gens ? Est-ce que c'est pas un jeu, finalement, plus émancipateur ?
Parce qu'on joue à plusieurs, parce que c'est pour moi, parce que c'est un format en multijoueur et qui est pas en un contre un, en duel, ça vaut rien. Parce que si une partie duel vampire, celui qui bleederait plus fort, enfin qui fera les morsures plus fort, c'est celui qui va défoncer le joueur. Il n'y aura pas d'équilibre, en fait, de possible. Alors qu'en multijoueur, c'est un jeu qui permet de l'équilibre. Et donc, qui permet les interactions sociales, comme on a pu voir dans la partie, un équilibre. Et donc, du coup, le côté, en fait, compétition est moins présent parce qu'il y a de la diplomatie.
La recherche de l'équilibre. Mais en même temps, c'est un équilibre de la terreur dans Vampire. Parce qu'on joue des gens qui se bouffent les uns les autres. Donc, tu vois, c'est pas non plus un équilibre sain, ou tu vois, il n'y a pas non plus ce côté.
Non, Yann, la durée de la partie aussi rend le jeu, je pense, beaucoup plus social.
Ouais.
Là, on était sur une partie qui était de 2h30, elle aurait pu pousser jusqu'à 3h. Bon, si on avait tous mieux connu les règles, peut-être qu'on gagnait une demi-heure. Donc en fait, on fait une partie sur la soirée. Une soirée, c'est pas 2h, 2h30, ça signifie qu'il y a de la discussion avant, de la discussion après. Là où un jeu comme Magic ou Yu-Gi-Oh, c'est des parties très courtes qu'on va pouvoir enchaîner et qui vont vraiment s'adapter à du tournoi et de la partie à la chaîne. Là, c'est vraiment une partie qui va être sur la soirée, sur l'après-midi, et puis à côté, on fait autre chose, on discute, on boit un coup.
Non, mais alors là, Yu-Gi-Oh, par exemple, on en parlait avec Pierre, mais alors, moi, je te donne mon avis sur Yu-Gi-Oh, Pierre. Moi, Pierre, je trouve que c'est un jeu aliénant, Yu-Gi-Oh. C'est un jeu où tu joues une machine. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ton deck est une machine. C'est même plus du calcul, ça joue tout seul, quoi. Les cartes, elles ont des effets qui entraînent d'autres effets. C'est que du trigger. Donc du coup, tout se déclenche, mais le terme même de déclenchement crée une espèce de mécanique de domino, jeu de domino qui s'effondre. En fait, tu vois ton jeu qui joue tout seul, presque, etc. Vampire, c'est pas du tout ça. On voit bien qu'il y a toute une dynamique humaine là-dedans. Qui rentre en ligne de compte.
Surtout si je peux donner mon avis sur la partie. Alors je sais pas si c'est conditionné par le côté que j'étais un néophyte, mais j'en avais rien à foutre de savoir si j'allais gagner ou pas la partie.
Exactement. Ah mais ça, voilà. Ça, c'est la preuve qu'on est bien dans un jeu, tu vois, alors que... social, pas, tu vois.
Alors
pas
que tout ce qui est Yu-Gi-Oh! Et des trucs comme ça, mais moi, ça me rend toxique, ces jeux, tu sais, je suis là, putain, j'ai envie de gagner, là. Et quand je me prends un contre, ça m'énerve, parce que...
Tout à l'heure, je te disais, Magic en diplomatique, ça me rend mauvais joueur. Ce jeu, par exemple, Vampires The Eternal Struggle, il y a très peu de chances que ça me rende mauvais joueur. La seule chose qui pourrait m'arriver, c'est d'être un peu aigri, parce que typiquement, comme Clément, je perds le premier à cause d'une erreur de lecture de quelqu'un ou d'un débutant, par exemple, qui me dégage. Et du coup, je me dis, merde, je vais me faire chier le reste de la soirée.
Bah, ça me ferait chier. Non, après, il y avait bien évidemment, il y avait aussi une erreur de stratégie où je m'étais un petit peu dépoilé, quoi, et puis moi, ça a profité. Mais bien sûr, il y a le côté, ouais, je me suis fait sortir assez tôt, mais c'est pas... Enfin, au bout d'un moment, ça passe, quoi. On s'en fout, c'est pas grave. Et puis, du coup, on continue la partie en regardant... en expliquant les règles aux néophytes ou en influant aussi un petit peu alors que même je suis
parce
mort mais je continue de
voilà
pas forcément non pas une question de préférence de clan surtout pas les ventrum hein. mais
juste ça t'aurait fait plaisir que Jules qui maîtrisait la partie se fasse un peu rouler dans la boue à la fin
non mais, moi de toute façon moi j'étais pro Nosfé moi ça m'a pas forcément dérangé plus que ça parce que de toute façon oui c'est pour moi c'est un jeu multi donc le multi c'est plus du il y a forcément beaucoup plus de social il y a beaucoup plus de ben, on s'amuse quand on prend du plaisir à jouer
c'est très intéressant
alors qu'en un contre un il y a plus une dynamique d'écraser son adversaire
là
peut-être.
Ce dont on est en train de parler c'est de l'esprit du jeu tu vois c'est vraiment parce que Magic c'est pas du tout l'esprit quand tu perds t'es pas bon tu sais t'as putain j'ai payé mes bilans de 250€ je perds je suis dégoûté le nombre de joueurs de Magic moi quand je fais des tournois de Magic c'est incroyable la finale se déroule sans spectateurs moi ça je comprends pas c'est-à-dire en fait en gros on fait un tournoi les deux meilleurs s'affrontent personne ne regarde parce que tout le monde s'en fout, parce que tout ce qui compte, en fait, c'est qu'il a perdu. Et ça me rend triste. Tu prends un tournoi de Legacy et tout, il y a la finale, personne ne la regarde, je trouve ça malheureux. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens qui jouent à Magic, ils ont envie de gagner, ils s'en foutent du beau jeu. Après, peut-être qu'ils le regardent en jeu vidéo et tout, mais moi, en tout cas, c'est ce que j'ai observé. Encore une fois, je suis joueur de Magic, j'aime Magic, je fais des tournois de Magic. J'aurais été qualifié pour la Coupe de France s'il n'y avait pas eu le Covid. J'aime le répéter parce que c'est un joueur de Magic qui vous le dit, quoi. Je trouve qu'il y a quand même un petit problème, là, tu vois, dans Magic. C'est un jeu aliénant, c'est un jeu qui nécessite d'avoir beaucoup d'argent, donc il y a un investissement financier. Donc quand tu perds aussi de l'argent. Enfin, en tout cas, tu as investi dans un truc qui ne te fait pas plaisir et qui ne te fait pas gagner.
Ouais, et puis tu peux perdre une partie de Magic, ne serait-ce que parce que tu fais une mort à cause de terrain, parce que tu ne pioches pas de terrain. Ça te frustre. Ça, c'est un truc qui n'existe pas à Magic, parce que tu ne dépends pas de... dépends pas de terrain, ne serait-ce que ça. Ouais. C'est un jeu qui occasionne beaucoup moins de frustration parce que, ou alors, t'as pioché de la merde et dans un système à Magic, si tu as pioché de la merde au début, c'est difficile de se relancer.
Ouais. Mais c'est. Voilà, en tout cas, voilà, il y a une différence d'esprit notable entre les deux jeux et je trouve que c'était intéressant d'en discuter, de le souligner. Pierrot.
Et rien qu'en termes de. Dans le design des cartes, il n'y a pas de carte qui te permet de faire des contres infinis contre ton adversaire. C'est très rare. Enfin. Tu vois, quand tu te prends un contre, t'es pas frustré alors que dans Magic ou Yu-Gi-Oh, t'as l'impression de perdre la partie parce que le hasard avait décidé que c'est comme ça, que l'autre il avait ses trois contres et toi t'étais foutu.
Et aussi parce que tu pioches beaucoup de cartes dans Vampire.
Ouais, les fameuses parties jouées d'avance, comme disait Darky, quoi.
Ouais, ouais. Eh bien, merci beaucoup, Yann. Merci beaucoup. Putain, mais là, ton prénom m'échappe. Je suis complètement fatigué.
Clément. Bah, merci
beaucoup,
merci,
Clément.
Merci à tout le monde. Merci.
Oh là, ça y est. Là, je déconnecte complètement. Je suis fatigué. Là, il est tard. Je sais pas quelle heure il est. Là. Il est quelle heure, là, juste pour info.
Il est pas 2h.
Il doit être 2h du matin, un truc comme ça. Bon, on est fou, on est trop fou de parler de vampires pendant la nuit comme ça. C'est roleplay en fait. On joue la nuit à vampire, on attend que le soleil se couche. Voilà. Donc merci Clément, merci Yann, merci Julien d'avoir proposé cette soirée.
De rien.
De nous avoir invité.
Depuis le temps qu'on en parle.
Ah ouais, c'est clair. Mais c'était vraiment super. Merci beaucoup Pierre. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Et surtout jouez bien. À très vite.
Salut.
Voilà, c'était le podcast de La Cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.